Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire. Aujourd'hui, le carême, ses origines et son sens. Et nous avons la joie de recevoir Jean Groux, rédacteur en chef de Prions en Église et de la revue Vie liturgique. Bienvenue, Jean.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour nous parler justement du sens du carême et comment l'année liturgique dans l'Église catholique est structurée autour de deux grands pôles.
Oui, c'est ça. L'Église catholique a structuré son calendrier liturgique, comme vous venez de le dire, en deux pôles principaux. Un de ceux-ci, c'est Pâques, la fête de Pâques, qui est même le sommet de l'année liturgique. Et l'autre pôle, c'est la nativité, c'est-à-dire la fête de Noël. Puis ces deux temps-là, ces deux pôles-là sont précédés d'un temps de préparation. Pour la fête de Pâques, c'est le carême. Et pour Noël, c'est l'Avent.
On a déjà ensemble abordé le temps de l'Avent il y a quelques semaines, oui. Et je vous en remercie beaucoup. Et c'est une joie que vous nous parliez justement de ce temps de carême qui a peut-être été associé autrefois peut-être plus à la pénitence, au jeûne, alors qu'aujourd'hui, peut-être particulièrement depuis le Concile Vatican II, on a peut-être déployé d'autres sens du carême. Alors, vous nous dites qu'il y a peut-être par rapport au carême, peut-être deux grands volets de préparation.
Oui, exact. En fait, pour les fidèles, donc les gens qui sont déjà baptisés, il s'agit de se disposer le cœur, le corps et l'esprit à célébrer la fête de la résurrection, donc Pâques, et à renouer aussi avec leur engagement baptismal. Donc ça, c'est pour les personnes baptisées. Pour les catéchumènes, donc les catéchumènes, c'est les personnes qui se préparent à célébrer leur baptême. Donc, pour ces personnes, donc, c'est un temps de préparation en vue justement de se préparer à leur baptême, hein, qui survient la plupart du temps lors de la veillée pascale.
Oui, qui est une célébration lorsqu'il y a des catéchumènes assez formidables d'ailleurs.
Oui, oui. Hein?
Ça rappelle justement, vous parliez des fidèles qui se disposent le corps, le cœur et l'esprit à célébrer Pâques, mais ça leur permet, si je comprends bien, peut-être de réfléchir sur leur propre baptême.
Oui, exactement. Pour les baptisés, donc l'Église propose des pratiques qui sont destinées à favoriser cette préparation-là. Hein. Puis traditionnellement, c'est la prière, l'aumône et le jeûne. Aux futurs baptisés, donc aux catéchumènes, l'Église demande de suivre un parcours spécifique hein, qu'on appelle le parcours de l'initiation chrétienne.
Et la période comme telle du carême commence le mercredi décembre, oui. Et se termine?
Il se termine la veille du Jeudi Saint.
La veille du Jeudi Saint.
Exactement.
Alors, justement, par rapport à cette date de Pâques, parce que selon la date de Pâques est déterminée la date du Jeudi Saint.
Du début du carême,
voilà,
c'est ça.
Et du début du carême aussi, vous avez bien raison. Alors, comment a été fixée cette date de Pâques? Parce qu'elle change tous les ans.
Oui, c'est ça.
Pour l'Église catholique.
Oui. Pourquoi est-ce que ça change? C'est parce que la date de Pâques est déterminé d'après les phases de la Lune et non pas d'après les phases du Soleil, ce qui est notre calendrier habituel, c'est le calendrier civil. Donc, c'est pour ça qu'il y a une variation d'une année à l'autre, hein, parce que les phases de la Lune ne correspondent pas aux phases, exactement aux phases du Soleil, évidemment.
C'est ça.
Puis, en fait, la célébration annuelle de la résurrection de Jésus est apparue dès le deuxième siècle. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, la date de Pâques changeait même d'une région à l'autre, hein, parce que, selon les traditions, au début de l'Église, on ne calculait pas la date de la résurrection de Jésus de la même façon. Et c'est avec le temps que c'est au Concile de Nicée-Constantinople que la date a été fixée au premier dimanche suivant la pleine lune après l'équinoxe de printemps. Le Concile de Nicée-Constantinople, c'était en 325. Donc, on a célébré son 1600e anniversaire l'an dernier.
Ah, c'est vrai, l'an dernier de ce concile
c'est
qui
ça.
Avait fixé la date de Pâques et qui
a
aussi permis une profession de foi qu'on connaît bien aussi.
Qui a élaboré la première profession de foi vraiment structurée.
Oui, c'est ça, parce qu'on imagine qu'au début de l'Église, les communautés qui étaient dans différents endroits dans l'Empire romain, puis aussi à d'autres endroits aussi, qui avaient que c'était facile de communiquer, puis qu'il y avait une préoccupation de faire tous la même chose, alors que c'était pas un souci au début, parce que les communautés étaient assez, sans être indifférentes, étaient assez autonomes.
Relativement autonomes, c'est ça.
Relativement autonomes, mais... éloignées, et il n'y avait pas les moyens de communication comme
exactement,
aujourd'hui.
Exactement. Mais avec le temps, on s'est concentré de plus en plus vers Rome, et finalement, c'est Rome qui a acquis l'autorité là, dont on relève encore aujourd'hui.
Et là, le pape Grégoire XIII a joué un rôle important aussi dans cette date-là.
Oui, c'est ça. C'est que, bon, il faut noter une particularité de notre calendrier, c'est que, bon, on sait que l'année compte 365 jours, mais en réalité, là, pour faire le tour du soleil, la Terre prend 365 jours et un quart.
Et un quart.
Donc, d'année en année, c'est comme si on perdait un petit bout de la rotation, là, dans le calcul d'une année. Et donc, avec le temps, ça a pris un certain temps avant qu'on s'en rende compte. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait 10 jours de décalage entre la date où on se trouvait et la date réelle qu'on pouvait retracer d'après l'endroit où le soleil se trouvait réellement dans le ciel. Donc, c'est là qu'au 16e siècle, le pape Grégoire XIII, comme vous le disiez, a décrété, donc c'est en 1582, a décrété une mesure pour rattraper le décalage, somme toute.
Le 10 jours,
pour compenser,
là.
C'est ça. Donc, on est passé du 5 au 15 octobre. On a comme laissé de côté 10 jours. Ça fait drôle un peu, là, mais c'est comme ça. Mais l'Église orientale, qui était en plus ou moins bon terme à l'époque, n'a pas accepté cette... plus ou moins bon terme avec Rome à l'époque, hein, s'entend, n'a pas accepté cette réforme, ce qui fait que... et a conservé la date d'origine du calendrier. Et c'est ce qui explique que l'Église d'Orient ne célèbre pas Pâques tout à fait à la même date que nous.
Et aussi Noël.
Et Noël aussi,
par conséquent.
Ouais,
donc,
ça, par conséquent.
Donc l'Église catholique souligne Noël le 25 décembre, eux, ils soulignent le 6 janvier,
Oui, c'est ça.
Et donc, ça a des conséquences comme ça.
Oui.
C'est très, très intéressant de savoir ça. Donc, une question plus de calendrier que de foi, finalement.
Oui, absolument.
c'est
un peu technique, là, finalement. Hein. C'est de l'astronomie, là. c'est ça.
Mais c'est très intéressant. Alors, donc, merci. Donc, la date, bien sûr, du début du carême étant fixée à la lumière, bien sûr, de la date de Pâques. Quelles sont les premières traces qu'on voit de comment les chrétiens ont commencé à se préparer à Pâques? Est-ce qu'ils appelaient ça le carême? Est-ce que ça commençait par un terme carême?
Non, le terme carême n'est pas apparu au début, mais on trouve les premières traces d'une pratique qu'on appellerait aujourd'hui le carême dès le 2e siècle. Donc, c'est vraiment très, très ancien. C'est vraiment une des plus anciennes pratiques chrétiennes. En fait, c'est que pour se préparer à célébrer la résurrection du Christ, on a institué 2 jours de jeûne, les 2 jours qui précèdent, donc le vendredi et le samedi. La période, cette période-là de jeûne, c'est prolongée ensuite pour inclure la semaine qui précède Pâques et ensuite, un peu plus tard, les 3 semaines qui précèdent Pâques. Et c'est finalement au 4e siècle que ça a continué à s'étirer et on a englobé 4 semaines avant Pâques. Et ça s'est étendu donc sur 40 jours et a pris à ce moment-là le nom de carême qui vient du latin quadragésima qui signifie 40e. Donc ces 40 jours en fait s'étalent sur une période de 6 semaines.
Alors c'est une époque aussi où l'Église est en croissance.
Oui, c'est ça. On accueillait de plus en plus de gens qui voulaient le baptême. Et donc, on les a invités pour se préparer, eux aussi, à entrer dans l'Église. On s'est dit, ce serait peut-être une bonne idée de les inviter à participer aux jours de préparation qui sont déjà institués depuis un bon moment. Donc, on les a invités à vivre leur entrée en Église en prenant part aux préparatifs, à la préparation pénitentielle des 40 jours qui précèdent Pâques. Et c'est à partir de ce moment que le carême a pris l'orientation baptismale qui le caractérise encore aujourd'hui. Bon, cela dit, la dimension pénitentielle a toujours dominé, ce qui fait même qu'à un certain moment, la dimension baptismale a pratiquement est passée au second plan, si bien qu'au Moyen Âge, c'était pratiquement disparu. Mais avec la réforme à la suite du Concile Vatican II, la dimension baptismale a été remise en valeur et elle est encore fortement ancrée dans les orientations du carême pour aujourd'hui, de nos jours.
Alors, Jean Grou, c'est peut-être nouveau de prendre conscience que dès le début de l'Église, même si au Moyen Âge, c'est plus la dimension pénitentielle qui a pris le dessus, mm-hmm. ou qui a été peut-être plus soulignée, qu'au fond, le temps du carême, c'est une occasion, bien sûr, pour les catéchumènes de se préparer.
Oui.
C'est intéressant de voir qu'ils se préparent en même temps que le carême invite les baptisés à renouveler ou à redécouvrir le sens de leur baptême.
Oui,
ça, c'est très intéressant comme orientation.
Absolument. Et les lectures bibliques qui ont été choisies pour la liturgie du temps du carême ont été spécifiquement sélectionnées pour aller dans ce sens-là, pour permettre aux baptisés de renouer avec leur engagement baptismal et aussi pour approfondir leur foi. Bien entendu, leur foi qu'ils vont célébrer de la plus belle manière lors de la veillée pascale. Donc, il s'agit de se préparer à Pâques, puis de se familiariser aussi avec les fondements bibliques de la foi chrétienne en préparation au baptême pour les catéchumènes. Et pour les fidèles, ben, c'est de renouer avec la fréquentation de la Bible.
À question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean Grou, rédacteur en chef de Prions en Église et de la revue liturgique. Et nous parlons du sens du carême. On vient de parler des origines. Et Jean Grou, vous nous avez vraiment remis de l'avant l'orientation baptismale du carême, que ce soit pour les catéchumènes qui, eux, se préparent à être baptisés dans la nuit pascale, et aussi pour les chrétiens qui, baptisés, ont peut-être besoin de reconnecter ou de renouveler le sens de leur baptême. Alors, vous nous disiez, Jean Grou, qu'avec la réforme liturgique du Concile Vatican II, on est allé chercher la richesse des Écritures pour justement montrer de plus en plus cette orientation baptismale. Alors, on va, écoutez, déployez-nous cette vie liturgique et ces textes si magnifiques, Jean Grou.
Je vous propose un petit parcours des lectures bibliques de la liturgie du carême. D'abord, peut-être que c'est bon de rappeler pour notre auditoire que les lectures bibliques des dimanches sont réparties sur un cycle de 3 années, qu'on appelle très poétiquement l'année A, l'année B et l'année C. On ne s'est pas cassé la tête, là, ceux qui ont procédé à la réforme. Bon. Et pour le carême, les 2 premiers dimanches donc du carême, et ça vaut pour les 3 années, A, B et C, on a les mêmes lectures, on a les mêmes épisodes de la vie de Jésus, je devrais dire. Le premier dimanche, c'est le récit des tentations de Jésus dans la version de Matthieu pour l'année A, dans la version de Marc pour l'année B et dans la version de Luc pour l'année C. Ça, c'est le premier dimanche. Le deuxième dimanche, c'est le récit de la transfiguration de Jésus. Et c'est le même principe. L'année A, c'est la version de Matthieu. L'année B, c'est la version de Marc. Et l'année C, la version de Luc.
Jean Grou, rappelez-nous, l'année A, c'est surtout quel évangile qui est mis de l'avant, même si quelquefois il faut aller chercher dans d'autres évangiles.
C'est ça. Ben, c'est ceux que je viens de nommer, mais j'aurais peut-être dû le dire auparavant. En fait, l'année A, pendant le temps ordinaire, et ça, je tiens à le préciser, pendant le temps ordinaire, c'est Matthieu qui est lu davantage. C'est l'évangile selon saint Matthieu qu'on lit davantage. L'année B, c'est l'évangile selon saint Marc. Et l'année C, c'est l'évangile selon saint Luc. Mais je tiens à peine de le préciser que c'est pendant le temps ordinaire, parce qu'en dehors du temps ordinaire, pendant le carême justement, et pendant le temps pascal, on a beaucoup plus de lectures de l'évangile selon saint Jean. Donc, quand on dit que l'année A, c'est l'année de Matthieu, moi, je dis toujours, un instant, on peut apporter des nuances. OK, ça, c'est mes préoccupations de bibliste et de liturgiste.
Jean Grou, cette nuance, elle est absolument importante parce qu'on pourrait se demander où est l'évangile de Jean.
Oui, hein? C'est ça.
Alors que l'évangile de Jean est présent, exactement.
Il est présent, et surtout pendant le temps pascal, mais il est aussi très présent dans le carême.
Voilà. Et aussi, il y a des couleurs propres aussi de chacune des années. Donc, 2026, oui. C'est l'année A.
Oui, c'est ça. Fait que c'est que je vous ai dit, les deux premiers dimanches, on a toujours le même épisode, le récit des tentations et la transfiguration. À partir du troisième dimanche, chaque année prend sa couleur spécifique. L'année A, qui est cette année, on va avoir comme lecture évangélique, le troisième dimanche, on a l'évangile de la Samaritaine, hein, qui rencontre Jésus au puits, on s'en rappelle. Le quatrième dimanche, c'est Jésus qui guérit un aveugle né. Et le cinquième dimanche, c'est la résurrection de Lazare, où moi, je préfère parler du retour à la vie de Lazare parce que j'aime mieux garder le terme résurrection pour Jésus. La résurrection de Jésus n'est pas du même ordre que le retour à la vie de Lazare. Parce que Lazare, lui, il a fini par mourir un jour ou l'autre, tandis que le Christ, il est vivant à jamais. Bon.
Oui, c'est une nuance très, très importante. On devrait effectivement parler plus du retour à la vie de Lazare par Jésus, d'ailleurs.
Ben, c'est ça, opéré par Jésus. Ben, par le Père, mais...
Par le Père, par son fils, exactement.
Ça, c'est pour l'année A. L'année B, on a des extraits, ben justement, on en parlait, des extraits de l'Évangile selon saint Jean, ceux qui portent essentiellement sur la glorification par la croix et la résurrection du Christ. Hein. On annonce déjà ce qui s'en vient, parce que c'est ça qu'on va célébrer bientôt. Puis l'année C, ce sont des textes qui portent plutôt sur la conversion. Ça, c'est pour les Évangiles. Pour les premières lectures, hein, chaque année durant le carême, la séquence des premières lectures permet de retracer, en quelque sorte, l'évolution de l'alliance de Dieu avec son peuple et plus généralement avec l'humanité. Je peux vous donner quelques exemples. Le premier dimanche, ce sont les origines de la relation de Dieu entre Dieu et les humains. Par exemple, cette année, c'est les questions du premier couple, hein, qu'on appelle communément là, Adam et Ève, avec le fameux fruit défendu et ce qu'on appelle le péché originel. Bon, il y aurait beaucoup à élaborer là-dessus, mais genre, c'est pas notre propos aujourd'hui. L'année B, donc, c'est toujours dans le premier dimanche. La première lecture porte sur l'alliance avec l'humanité après le déluge. C'est Noé, hein, à qui Dieu promet de ne plus jamais recouvrir la surface de la terre avec de l'eau. Et l'année C, c'est le rappel de la libération d'Égypte et l'arrivée du peuple d'Israël en terre promise. Le deuxième dimanche du carême, toujours, la première lecture met en scène la figure d'Abraham. Et du troisième au cinquième dimanche, toujours, pendant le carême, la première lecture, du troisième au deuxième dimanche, on a troisième dimanche, c'est la figure de Moïse. Quatrième dimanche, c'est le peuple d'Israël en terre sainte. Et la prédication des prophètes le cinquième dimanche. On a donc affaire ici à une véritable catéchèse biblique qui répond à une des visées du carême, hein, d'amener les fidèles, les catéchumènes ou les baptisés au cœur de la foi chrétienne. C'est vraiment une des visées essentielles du carême. Au fil des lectures, donc, on découvre comment Dieu a préparé son peuple à accueillir le Messie. Hein, on se prépare à recevoir l'annonce de la bonne nouvelle lors de la veillée pascale. Le Christ est ressuscité. C'est ça l'essentiel.
C'est important ce survol de l'histoire d'Israël. C'est important pour les baptisés, mais je dirais les catéchumènes. D'où vient finalement ce rapport de Dieu avec l'humanité? C'est important de rappeler les hauts et les bas et l'engagement de Dieu.
Oui, c'est parce que ça... C'est un peu comme si ça nous situe en quelque part, ça nous situe dans une histoire, puis on se rend compte qu'on a hérité de quelque chose, plus ou moins consciemment, et qu'on est appelé à porter cette espérance-là, parce que c'est ça essentiellement, hein, ce vers quoi on s'en va, c'est une bonne nouvelle d'espérance, le Christ est ressuscité, puis la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. Donc ça, c'était pour les premières lectures du carême. Pour les deuxièmes lectures maintenant, il faut savoir que pendant le temps ordinaire, les deuxièmes lectures de la messe nous offrent une lecture semi-continue des divers écrits apostoliques. Ça veut dire que d'un dimanche à l'autre, on passe du début d'une des lettres des apôtres à la fin, mais c'est une lecture semi-continue, c'est-à-dire qu'on en saute des bouts. Ça, c'est le principe pendant le temps ordinaire. Pendant le carême, c'est pas tout à fait ça. On a choisi les deuxièmes lectures pour leur correspondance, soit avec la lecture qui précède, la première lecture, soit avec l'Évangile. Je vais vous donner un exemple. Le premier dimanche de l'année A, qui est l'année dans laquelle on se trouve actuellement, la deuxième lecture, elle est en lien avec la première. Et j'en cite un petit bout. C'est saint Paul qui dit, c'est de la lettre aux Romains, « Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. » C'est en lien avec le récit du péché originel dont on a parlé un peu plus tôt. Puis peut-être un deuxième exemple aussi, hein, le quatrième dimanche encore de cette année, la deuxième lecture correspond plutôt à l'Évangile. Elle dit, en fait c'est encore saint Paul qui dit, « Autrefois vous n'étiez que ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes devenus lumière. » Et qu'est-ce qu'on a dans la lecture évangélique? Bien, c'est le Christ qui ouvre les yeux à l'aveugle-né, donc, et qui se révèle, qui se présente comme lumière du monde. Donc, de cette façon, la deuxième lecture devient une sorte de pont entre la première lecture et la lecture évangélique. Elle offre, pour ainsi dire, un genre de développement théologique des diverses facettes de la foi que la première lecture et l'Évangile nous présentent sous forme de récit.
Intéressant, très intéressant de faire ce lien entre les différentes lectures. Elles ne sont pas choisies au hasard, c'est vraiment pour permettre un approfondissement. Absolument. Des récits et aussi des lettres, des écrits apostoliques.
Tout à fait. Et c'est vrai durant le temps du carême et c'est vrai durant tout le temps du calendrier liturgique, dans tout le lectionnaire. J'aimerais souligner une particularité des lectures évangéliques de l'année A, justement, l'année dans laquelle on se trouve, c'est que du troisième au cinquième dimanche, on a ce qu'on appelle les évangiles de l'initiation chrétienne. Ces trois textes proviennent de l'évangile selon saint Jean. On les a retenus pour leur richesse théologique et pour leur force d'évocation. Le troisième dimanche, c'est le récit de la Samaritaine, on y a fait allusion tout à l'heure, qui a forte teneur baptismale, hein? Ça va de soi pour le carême.
Oui, avec la symbolique de l'eau.
Avec la symbolique de l'eau, c'est en plein ça. Puis qui révèle aussi le Christ comme l'eau vive qui étanche toute soif. Ça, c'est le troisième dimanche. Le quatrième, c'est le récit de la guérison de l'aveugle-né qui nous ouvre les yeux sur la lumière, le Christ, qui est venu chasser les ténèbres du monde, quelque chose qu'on va célébrer pleinement lors de la veillée pascale. Puis le cinquième dimanche, bien, c'est l'épisode du retour à la vie de Lazare, qui anticipe déjà la fête de Pâques, hein? Parce que c'est comme un avant-goût, là, une percée. Donc, on a ces trois dimanches-là mettant en évidence l'eau, la lumière et la vie, autant de facettes, de réalités qui vont se déployer symboliquement lors de la veillée pascale.
Et cette richesse, elle est remarquable, Jean Groulx,
absolument,
de ces
oui.
textes.
C'est la contenu et la variété des lectures bibliques pour les dimanches du carême se distinguent donc par leur richesse et leur densité. C'est vraiment... Personnellement, c'est la période de l'année que je préfère parce que je trouve justement qu'on a une grande... Cette richesse théologique-là, elle est vraiment puissante. Et il y a aussi, comme vous le mentionniez tout à l'heure, toute la notion de l'histoire d'Israël qu'on voit se déployer de dimanche en dimanche. Donc, ça permet... Ces lectures, donc, pendant le temps du carême, permettent aux chrétiens et aux chrétiennes d'approfondir leur foi et de se sentir partie prenante de l'histoire du salut.
Jean Groulx, un immense merci de nous avoir fait ce portrait du carême, de l'origine du carême, mais aussi des lectures et de la vie de l'Église aussi, de la vie liturgique aussi, qui permet justement de redécouvrir la vocation baptismale. Merci beaucoup, Jean Groulx.
Merci.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci pour votre écoute au micro Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt.